Avertissement. Cette émission est le résultat de l'enregistrement d'une discussion semi-préparée n'ayant fait l'objet d'aucun montage et de très peu de coupures. Les opinions et commentaires émis par nos invités leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. Nous préférons vous en avertir.
Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Cette semaine, Martin rencontre une jeune grand-maman toujours très active, France Provost.
Aujourd'hui, nous sommes dans les locaux de la compagnie Point par Point parce que notre invité a un lien très important avec cette compagnie. Il y en a sûrement qui le savent déjà, il y en a qui le savent pas, et le but de Connaissez-vous, c'est aussi de vous apprendre des choses, de vous faire découvrir des personnes. Et aujourd'hui, je vous fais découvrir quelqu'un que ça fait longtemps qu'on se dit qu'il faut qu'on fasse l'entrevue, et c'est aujourd'hui que ça se fait. Elle s'est déplacée, comme je vous l'ai dit, chez Point par Point à Longueuil. Elle s'appelle France Provost. Tout d'abord, bonjour France.
Bonjour Martin.
Merci beaucoup d'être là, c'est vraiment très apprécié et en plus très agréable. Je pense qu'on va faire une belle entrevue. J'ai l'impression que je vais découvrir moi-même des choses. Donc quand j'ai l'impression que moi je vais découvrir, j'ai l'impression que beaucoup de mon auditoire va découvrir aussi.
Ben, merci à toi.
Ça me fait toujours bien plaisir. Donc, tu as un lien avec Point par Point parce que bon, tu as été la conjointe de Gérard Cécire qui a bâti Point par Point, puis tu l'as bâti avec lui. Mais avant d'en arriver là, parce que Point par Point, c'est arrivé quoi, en 89?
Oui.
89. Toi, tu es arrivé un petit peu avant ça.
Oui, on sait que, tu parles au niveau de...
La naissance, hein? Allons, naissance. Commençons.
Je suis née en 1952 à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et mes parents, quand j'avais 2 ans, sont déménagés à Sherrington, là où les familles de mes parents habitaient.
OK.
Je viens d'une famille relativement aisée. Mon père était entrepreneur. Il a toujours eu ses propres commerces, dont longtemps restauration, taxi pour la région là-bas.
OK.
J'ai travaillé, c'est sûr, dans l'entreprise familiale.
Dans les restaurants,
aussi.
Oui.
Oui. Mm-hmm. Après ça, quand un petit peu plus tard...
Mais t'as commencé ce jeune de travailler comme ça dans le restaurant?
Disons, donner un coup de main, là, mm-hmm. 10 ans, 11 ans, là, tu sais, des petits coups de main, laver de la vaisselle ou des choses comme ça, tout en allant, en faisant mes études, évidemment. Après ça, l'été, il y a eu les emplois d'été dans les restaurants. Et puis, j'ai continué dans les restaurants plus tard, quand j'ai eu mes 18 ans. Je suis déménagée à Montréal. J'ai travaillé dans un grand restaurant à Montréal.
OK, mais tu vas un petit peu vite, là.
Je vais vite.
Moi, j'ai 2-3 petites questions. D'accord. Qui me viennent. Avoir la chance d'avoir des parents qui ont un commerce, est-ce que ça donne l'envie de travailler comme ça, de donner des coups de main, mais à cet âge-là, c'est important d'avoir justement l'impression d'aider, puis tout ça. Est-ce que ça t'est venu ou si c'est un peu imposé parce que bon, les parents veulent que les enfants donnent des coups de main? Comment ça se passe?
Je te dirais que ça s'est fait naturellement.
Ok.
C'était comme ça allait de soi.
Okay.
Tu sais, on avait des tâches, puis il fallait faire nos tâches, puis après, bon, on pouvait aller s'amuser.
Ça s'élargissait, là, c'était pas c'est juste ça. Comme les tâches de maison, là, c'était aussi les tâches un peu reliées au commerce.
Pas vraiment les tâches de maison. Pour ça, on avait des personnes qui s'occupaient de ça. Mes parents étant tous les deux dans le commerce.
Il n'y avait pas le temps.
Il n'y avait pas le temps. Puis nous, on était impliqués aussi dans le commerce. Puis pour le reste, pour les heures où mes parents travaillaient au commerce, on avait nous autres une personne là qui nous prenait en charge.
OK. Et vous étiez-vous une famille nombreuse?
Non, on est seulement 3 enfants.
OK.
2 garçons, un plus vieux que moi, je suis au milieu, l'enfant milieu.
Ah, l'enfant milieu.
Et un plus jeune que moi de 5 ans, ouais.
OK, d'accord. Et là, on parle que tu travaillais dans les restaurants, on parle que à 18 ans, tu es déménagé à Montréal, tout ça, puis que tu as travaillé dans un gros restaurant. On conclut donc que tu n'avais pas de problème de vision encore à ce moment-là.
Non, pas encore. Même okay. Avant ça, dans mon coin à Sherrington, la petite ville à côté, qui s'appelle Napierville, j'ai travaillé le restaurant Le Douglas, qui est aussi une grosse hôtel, là, restaurant, salle à dîner, le bar, tout ça, j'ai travaillé là aussi avant d'aller à Montréal.
OK.
Puis après ça, j'ai travaillé jusqu'à l'âge, dans les restaurants, jusqu'à 29 ans.
OK.
Là, ma vue descendait trop. Tu sais, le soir, ils tamisent les lumières, étant donné que je suis rétinite pigmentaire. Là, ça convenait plus du tout à ma vue.
L'ambiance comme du restaurant, de lumière, puis tout ça.
C'était trop tamisé pour moi. C'était, okay. Ça devenait dangereux. Ça que j'ai complètement abandonné les restos. Puis c'est là que j'ai décidé d'appeler à l'Institut Nazareth et Loubraille, sachant que j'avais eu le diagnostic à 20 ans, que j'avais la rétinite puis que ma vue descendrait graduellement jusqu'à la cécité. C'est quand j'ai arrêté les restaurants à 29 ans, j'ai appelé l'Institut, j'ai demandé pour aller apprendre mon braille puis avoir des cours de mobilité en préparation de okay. la cécité.
Mais on voit que tu es prête à rentrer dans le vif du sujet, hein, parce que... Mais OK, moi, je reviens encore un petit peu en arrière. À 18 ans, là, tu décides de partir à Montréal. Est-ce qu'il y avait une raison en particulier? Est-ce que c'était...
Ben, tu sais, l'envie d'être libre, parce que à cette époque-là, c'était en 70, la majorité était à 21 ans.
Ah oui, c'était pas encore changé, ça.
C'est ça. OK. Puis moi, j'ai eu 18 ans au mois de décembre 69. Puis au mois de février 70, la loi est passée pour 18 ans.
OK, ça fait que t'as pas eu à attendre jusqu'à 21.
J'ai pas eu à
attendre. Mais tu venais d'avoir 18 ans.
C'est ça. OK. C'est pas parce que j'étais pas bien chez nous. C'est juste que j'avais une amie de fille qui, elle aussi, était prête à partir en appartement. La liberté, on voulait se prendre un appartement ensemble, puis travailler à Montréal, puis voir autre chose que la campagne.
Parce que c'est ça, c'était campagne, mais c'est oui. pas si loin que ça de Montréal non plus.
Non, c'est, je te dirais, quarantaine de minutes peut-être de Montréal, mais une heure au max.
Là. Ouais, c'est que tu y allais. J'imagine que tu y avais été souvent ou quelques fois. Ouais,
ça fait relativement souvent, là, si on peut dire.
C'était juste assez loin dans le fond pour pas pouvoir y aller comme tel quand on veut là.
C'est ça.
Quand on n'a pas de véhicule ou
exactement.
Quoi que ce soit.
Exactement. C'est en autobus, puis en campagne, l'autobus
c'est pas
une
si...
fois par jour.
C'est
puis,
ça.
Tu peux y aller, mais tu peux pas revenir la journée même.
Ouais.
Et vice versa.
Ce qui là, peut causer là, certains. Ça demande une certaine logistique là, quand on.
C'est ça.
Quand on veut y aller.
Exactement.
Donc c'était ça. C'était le désir de liberté,
oui.
de prendre l'appartement, puis tout ça,
oui.
et de forcément de travailler.
Oui.
Et là, parce que bon, comme je te disais tantôt, t'as de l'air prête à entrer dans le vif du sujet, mais parce que ton diagnostic de rétinite est arrivé à 20 ans, donc pas tellement longtemps après non plus.
Ben, je dis 20 ans, j'étais plus 19 ans, un petit peu avant mes 20 ans.
OK, mais vraiment ouais. pas longtemps après le déménagement à Montréal.
Par contre, je savais que j'avais quelque chose.
OK.
Parce qu'à partir de l'âge de 15 ans, je voyais pas bien le soir.
OK, il y a eu un changement dans ouais. ta vision à partir de 15 ans.
Oui, je pouvais foncer dans les gens Là, je me faisais des coups d'or, t'es-tu aveugle? Non, je suis pas aveugle, mais moi, je comprenais pas moi-même.
C'est ça.
Qu'est-ce qui m'arrivait?
OK.
À l'époque, je fumais, puis je me souviens d'avoir été dans un bar, puis éteindre ma cigarette bien comme il faut sur la table, parce que le cendrier, c'est un cendrier transparent que je voyais pas. Des choses comme ça qui m'ont fait...
Des détails, dans le fond, qui font qui sonnent comme une cloche. C'est là. Ça. Puis on sait qu'il se passe quelque chose de bizarre, mais on sait pas encore quoi.
C'est ça. Puis à 19 ans, là, je me suis tanné. Puis j'ai dit, bon, faut que j'aille absolument voir qu'est-ce qu'il y a de... Qu'est-ce qui marche pas avec moi, là. C'est là que le diagnostic est tombé, là, rétinite pigmentaire.
Puis là, je sais pas si on peut raconter ça, mais avant l'entrevue, tu me disais que c'est pas toujours non plus annoncé de façon très, très...
Vraiment pas. C'était le médecin Dr Brunet à l'hôpital Maisonneuve, Rosemont, et il m'examine tout ça. Fait que là, je lui demande, je dis « Bon, qu'est-ce que j'ai? » Fait qu'il me dit, il dit « Bon. » Il dit, t'as la rétinite pigmentaire. Il dit, ta vue va descendre graduellement, tranquillement, tranquillement. Il dit, jusqu'au... Puis il dit, un beau matin, tu vas te lever, puis ça va être fini. Tu vas t'aveugle. Puis il dit, en tout cas, il dit, en passant, il dit, engage-toi pas comme gardien de nuit. Je l'avais trouvé tellement plate, là. Bête et plate. Je suis sortie de là en pleurant comme une madeleine, là. Je suis tombée de haut, là. Puis après ça, ben là, on s'y fait, là, tranquillement.
Mais... On s'y fait, puis dans ton cas, ça a diminué graduellement aussi.
Oui, oui.
Mais si on fait un paradoxe un peu plat, que, comme tu le disais tantôt, à un moment donné, même le fait de tamiser les lumières dans le restaurant, ça t'empêchait de bien, fonctionner. Donc, c'était pas gardien de nuit, mais il y avait un problème avec
le jour et la nuit.
Le jour et la nuit, tu sais, c'est forcément.
Ça. Le jour, j'ai vu très bien, longtemps.
C'est ça.
Je te dirais jusqu'à l'âge de 50 ans. À 50 ans, c'était pas très bien, mais je voyais encore assez, tu sais, pour me débrouiller, là, tu sais, pour me promener avec ma canne pliée dans les mains.
OK.
Mais ça, à partir de 50 ans, là, à un moment donné, là, c'était fini. Là, je voyais plus... tu sais, quand tu dis tu vois plus le marshmallow au bout de ta canne, là, c'est parce que...
Ouais, c'est parce que là, on voit plus vraiment les détails.
Fini,
là. Ouais, ouais.
C'est ça.
Okay.
C'est fini, fini.
D'accord.
Mais j'ai été chanceuse parce que la plupart des rétinites, à 35, des fois 40 ans, c'est fini, là. Ça fait que je me
ça que tu considères que tu as eu un petit peu plus longtemps
ouais,
là, que la moyenne des...
été jusqu'à 50. Là,
OK. Ça. Et là, bon, à part pleurer comme une madeleine en sortant du bureau du médecin, le moral, ça a été comment? Parce que tu dis, on s'y fait, mais est-ce que... Bon, là, forcément, on l'annonce un peu à son entourage. Comment ça s'est passé pour toi?
Moi, je te dirais que à partir de 15 ans, c'est comme si les gens me croyaient pas. Je sais pas qu'est-ce qu'ils s'imaginaient. C'est comme si... moi, j'ai toujours eu l'impression qu'ils pensaient que je jouais un jeu. Puis je trouvais ça ridicule, parce que je me disais, s'il y avait un jeu à jouer,
ça
je jouerais
pas
ça, parce qu'il est plate, il est pas le fun. Mais
Ah oui, les gens avaient vraiment l'impression que...
Ouais. Parce que même des gens proches te disaient, ben voyons France, fais attention. Je dis, oui, je m'excuse, c'est pas parce que je faisais pas attention, c'est que je voyais pas. Il y a des choses, en plus, c'est embêtant la rétinite, parce qu'il y a des moments où l'éclairage est vraiment parfait, là, tu sais, que toutes les conditions optimales.
C'est ça,
là,
ça que dans ce temps-là, ça va bien.
Mais il arrive des moments, tu sais, plus ombragé ou que là, ça va pas. Puis là, c'est là que les gens comprennent pas. Ils disent, ben là, tu le voyais...
C'est ça, bien. Le changement comme d'attitude, là.
C'est
t'sais.
Ça. Puis là, aujourd'hui, là, tu le vois plus, là. Je disais non. Mais c'est difficile pour les voyants de comprendre ça. Même après que je me suis promené avec ma canne blanche, là, je me souviens, les gens, ils me disaient, ben voyons donc, tu vois, tu me regardes dans les yeux. Je comprends, là, mais... Je te vois pas tellement bien pour tout ça, là.
OK, c'est qu'ils pouvaient pas vraiment faire comme la distinction, là.
Encore aujourd'hui. Que je vois plus du tout, là. Apparemment, moi, que ça paraît pas dans mes yeux. Tu sais, que mon regard est resté, entre guillemets, normal. Ça fait que souvent, moi, je regarde les gens dans les yeux, Puis si c'est des gens qui me connaissent pas, là, ils se rendent pas compte. Puis après, des fois, tu sais, quand ils me voient faire, puis qu'ils voient bien là qu'il y a quelque chose que... Là, j'y pense, je dis, ah, OK, c'est parce que je vois pas. Ah, OK, il me semblait, mais t'es pas sûr, puis...
OK, parce que t'as vrai... Toi, je vais vraiment poser une question parce que je le sais pas. Mais toi, tu regardes les gens comme... ou ce que tu penses être leurs yeux, dans le fond?
Apparemment que oui, puis apparemment que je regarde au bon endroit.
C'est quand même particulier?
Non, je suis pas la seule.
Non, mais quand ça arrive, je veux dire, ça met comme une espèce de questionnement encore plus grand, des fois, chez les gens.
Tu vois, te donner un exemple. Quand je suis déménagée à Waterloo, il y a personne qui me connaissait.
Oui.
Puis je suis comme la seule aveugle là-bas, là, aveugle totale. Puis, au début, tu sais, quand t'es encore dans les boîtes, puis tout ça, je commande du resto. Fait que le monsieur, il cogne à la porte.
Le livreur,
oui. J'ouvre la porte, je tends les mains, parce que, tu sais, pour qu'il me donne ma boîte. Mais moi, j'y pense pas, que je vois pas. Fait qu'il me regarde, puis moi, je le regarde. Puis on se regarde, puis là, il bouge pas, il réagit pas. Puis là, j'y pense, je dis « Ah! » OK, j'ai dit, c'est parce que moi, je suis aveugle. Ah, oh, OK! On aurait pu rester longtemps comme ça.
À se demander un peu.
Pour lui, tu sais, c'est comme si je le dévisageais, les mains tendues, mais que je parle pas. Puis que lui, il se dit,
que se passe-t-il?
Qu'est-ce qui se passe-t-il avec cette dame? Tu sais, c'est des choses comme ça où souvent, c'est ça, là, tu sais, quand... Les gens sont pas sûrs ou...
C'est ça, c'est comme... Ils pensent pas spontanément que non. C'est... Ça peut être tellement, tu sais, d'autres problèmes, d'autres affaires.
C'est ça, puis vers la fin, quand je voyais mais encore un peu, le fait que tu vois un petit peu, ben là, pour eux autres, tu vois tout.
C'est ça. Là, ça vient de compliquer toute l'affaire. Hein?
Oui, là, ils te disent, tu demandes quelque chose, ben c'est là.
Qu'est-ce que oui, tu vois, puis comment, puis...
Ouais. C'est ça, il est où ton là, puis, tu sais, c'est...
C'est bien vrai.
C'est un métier, t'aveugle.
Et là, bon, à 29 ans, tu me disais, bon, là, je pouvais plus travailler au restaurant, c'était rendu dangereux, tout ça. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi à ce moment-là?
C'est là que j'ai téléphoné à l'Institut. J'ai écrit à l'Institut. J'ai écrit une lettre demandant si c'était possible que je puisse apprendre mon braille et des cours de mobilité en préparation de ma future cécité, si on veut.
OK.
J'ai été acceptée, mais comme j'étais retournée habiter chez mon père en campagne, à Sherrington, c'était trop loin. Ça fait que dans le temps, l'Institut qui était au 1255 Beauregard, il y avait l'hébergement. Ça fait qu'ils m'ont proposé d'aller rester directement là, à l'Institut, pour être à même là, de...
Avoir tous les cours.
C'est ça, un condensé, puis que ça soit à tous les jours. Ça fait que c'est comme ça que j'ai appris mon braille, aussi ma mobilité. C'est là aussi que j'ai rencontré Gérard.
Ah.
C'est avec lui que j'ai perfectionné mon braille. Puis après ça, ben c'est ça, on a commencé à sortir ensemble. Après ça, on est resté ensemble. Puis là, ben c'est ça, on a eu nos enfants. Puis un petit peu avant d'avoir nos enfants, là, pendant, c'est là qu'on a commencé à faire nos démarches parce que c'était compliqué pour des personnes handicapées visuelles de se trouver un travail.
Oui, déjà à ce moment-là.
Là-bas, dans ce temps-là, il n'y avait même pas d'adaptation ou très peu au travail. Fait que les gens étaient réticents. Puis il n'y avait pas grand-chose non plus, là, tu sais, pour...
C'est que là, vous est venue l'idée de démarrer votre entreprise qui allait
Gérard
vous...
Gérard s'est dit, écoute, on peut pas s'en... Personne veut nous engager. On va la faire notre... on va la créer, notre entreprise.
OK.
Puis l'idée est partie de là.
Et là, bon, parce que là, on sait que point par point, ça fonctionne encore.
Oui.
30 quelques années plus tard.
Exact.
Mais est-ce que ça a été quand même compliqué, le démarrage? Parce que, bon... Personne ne voulait vous engager à cause de votre handicap, mais est-ce que démarrer une entreprise, quand on est non-voyant, ça amenait des défis? Est-ce
oui,
que...
beaucoup de démarches. Fallait se trouver un avocat pour notre charte. Il fallait aussi, vu qu'on partait de rien, on a demandé des subventions. Puis je sais pas si t'es au courant, mais les subventions, là, c'est des formulaires et des formulaires à remplir. Puis c'est des retours de courrier qu'il faut repenser les questions et tout ça. Beaucoup de démarches aussi au niveau de se rendre à des dans divers magasins, si on veut, là, tu sais, pour acheter l'ameublement.
Tout ce qu'il faut pour commencer, là.
C'est ça. Mm-hmm. Puis nous, ben, on avait notre maison, mais puis il y avait un garage qui était connexe à la maison.
Okay.
Ça fait qu'on a décidé de modifier ça, de faire un bureau dans le garage.
Okay.
Avec le garage, là, tu sais, vraiment bien, là, tu sais, avec tapis et tout, là. Puis là, c'est là qu'on a eu nos premiers contrats. Puis là, ben, c'est devenu, notre bureau était devenu trop petit. On a pris la salle familiale.
OK, parce que ça a pris quand même de l'expansion.
Oui, oui, parce qu'on avait déjà des employés. On avait Élise Ferrara qui a travaillé pour nous. On a eu Émile Ouellette aussi qui a travaillé pour nous. On avait une secrétaire.
OK, ça fait que ça a quand même pris de l'ampleur, là,
là
assez vite.
Oui, oui. Puis après ça, ben moi, j'ai travaillé aussi. L'Institut m'avait approché pour travailler pour eux.
OK.
J'ai travaillé un petit peu à la vieille bibliothèque du 1255.
Oui.
Moi,
je connais bien cette bâtisse-là parce que j'étais allé à l'école dans cette
okay.
bâtisse-là.
Hein? Bon, on travaillait en haut, là, dans le,
okay.
dans le pit en haut, là, où ce qui était la bibliothèque originale.
J'imagine. Oui, oui, oui.
Je m'avancerai pas trop. Après ça, l'Institut, vu que je travaillais avec Gérard, moi, je faisais la lecture. Gérard tapait à l'ordi. Puis à l'écran, moi, je voyais tous les signes ASCII. Ça fait que j'ai appris mon braille abrégé avec l'ASCII.
Ah boy, OK.
C'est comme le signe plus, c'est O-N.
Oui, 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 oui.
Bon, fait que quand l'Institut, je sais pas de quelle façon qu'ils ont su ça, mais en tout cas, ils étaient comme intéressés. Ça fait que je suis allé passer une entrevue,
mm-hmm.
puis ils m'ont engagé.
OK, c'est que tu étais quoi, technicienne de braille?
Technicienne de braille à l'Institut. Mais en ASCII.
OK.
Moi, à l'écran, là, c'était, tu sais, pour les gens, là, il y en a plusieurs, ils venaient tous dans mon bureau voir ça, c'était comme du chinois. Mais que moi, après, je sais pas, moi, ça faisait déjà 4-5 ans que je travaillais avec Gérard, que je les voyais les mêmes signes tout le temps venir. Tu l'apprends, c'est pas long, là.
Ah, puis quand tu dis que tu as même appris l'abrégé comme ça, là,
oui.
Faut le faire.
Ben, c'est-à-dire, mes abréviations comme telles, ça, c'est de mémoire. Là, je
ouais,
l'ai appris, tu sais, comme tout le monde. Mais l'abrégé à l'intérieur des mots, puis tout ça, j'ai tout appris ça en ASCII.
Donc, mais là, tu faisais les deux?
Oui.
Tu aidais Gérard, puis tu faisais...
Oui, parce qu'à l'Institut, j'étais pas permanente.
Okay.
Fait que je faisais des blocs de, je sais pas, quelques mois. Puis là, ben je revenais chez nous, je retravaillais avec chez Point par Point. L'Institut me rappelait, je rentrais, je revenais chez... Tu sais, je le faisais entre les deux, là, si tu veux. Jusqu'au jour où l'Institut m'appelait encore, mais il y avait trop de travail chez Point par Point. Fait que j'ai eu à choisir l'Institut ou Point par Point. J'ai choisi Point par Point, j'ai laissé tomber l'Institut.
Mais tu sais, c'est quand même un beau choix quand, tu sais, on sait qu'on manque pas de travail.
C'est
qu'on
ça.
Manque pas de... Hein, qu'on est occupé, puis
ouais.
c'est ça qu'on voulait, hein, parce que...
Ben, ça a été une bonne idée de la partie de notre entreprise.
C'est ça,
sinon,
parce
on
que...
on était sur la paille, là. Ouais.
C'est ça, ça fait que... Puis une entreprise qui marche encore aujourd'hui, tu sais, ça fait
ouais.
que... Et là, ben, c'est ça, ça a pris beaucoup d'expansion. Moi, je me souviens que Gérard, il me racontait qu'à un moment donné, même vous aviez deux maisons, puis...
Oui, l'un à côté de
quasiment
l'autre.
Connectés ensemble là,
oui.
pour savoir qu'est-ce qui se passait de une à l'autre. Puis
exactement. Puis ça aussi, La deuxième maison était entièrement dédiée à Point par Point. Mais ça aussi, elle est devenue trop petite. Ça fait que là, il a loué, je pense, un premier building là, sur un chemin Chambly. Je sais pas si toi, tu l'as connu.
Non, moi, je suis arrivé là, dans le fond, après, une fois rendu ici, mais okay. Ça faisait 3 semaines qu'il était ici.
Ah, bon, hein? Tu vois. Fait qu'il a loué le premier building, à moins qu'il l'ait acheté, mais d'après moi, il l'avait loué.
Ouais, dans les 20 quelques, là, chemin Chambly.
C'est
là,
ça,
ouais,
il est devenu trop petit. Ça fait que là, il a acheté ici pour vraiment avoir assez grand.
Ah, puis là, bon, là, c'est sûr que c'est assez grand.
D'après moi, oui.
C'est une bonne bâtisse, là, quand
c'est
même.
C'est ça. Ça fait que, tu sais, ça partit petit. On a parti, avant d'avoir notre maison, on était en appartement. Puis on faisait ça dans on s'était fait un genre de petit bureau, là, dans la chambre supplémentaire. Puis le jour, je me rappelle, on était assis dans le salon. Moi, je faisais la lecture, Gérard, c'était au Breller, avant d'avoir nos ordi, là, au début.
Et hey, ça veut dire que ça l'a évolué aussi, oui. Toute la technologie.
Oui, ça, j'ai fait ça un peu à l'envers, là. J'aurais dû commencer avec ça, là, mais...
Mais sauf qu'on on voit que tu étais comme ouverte à tout ça, les changements et de technologie et de, oui. de d'agrandissement, d'aménagement, réaménagement, oui. Déménagement, hein, nomme-les toutes.
Prendre des cours sur les ordi.
Perfectionnement,
Word,
oui.
Word Perfect, exact. Tout ça, moi j'ai pris mon cours de code Nemut.
OK, ah oui, OK, ouais. Tu t'es lancé là-dedans.
Oui, monsieur. J'ai fini deuxième de ma formation, j'étais contente. Puis le premier, ça aussi, j'étais très contente, c'est un monsieur Denis, je me souviens pas de son nom de famille, qui était sourd, muet, aveugle.
Oh là là!
Il a fini premier. C'est wow. Quelque chose, là.
Ça devait être quand même tout un défi, là.
Oui.
Et là, il est arrivé des enfants, parce que ça, tu l'as mentionné au début de l'entrevue, c'est pas une déclaration que je fais, il est arrivé
non,
des
c'est
enfants.
C'est ça, en 87, les jumeaux.
Des jumeaux, hein, quand même, hein, oui. Là.
Ben là, on a combiné tout ça en même temps. La compagnie, le travail, la maison, les jumeaux, les reconduire, les jumeaux à garderie, aller les rechercher. Faire les repas, tout ça, on se partageait les tâches. Disons que Gérard, lui, c'était plus au niveau de la compagnie. Puis moi, c'était plus au niveau, les deux. Tu sais, je voguais là, entre les deux.
Ouais, t'avais pas le choix de...
Et le bureau, et l'institut, et les enfants.
Ben, en tout cas, on peut dire que tu devais être occupé. Tu devais pas avoir beaucoup de temps pour toi, certain.
Non, pas vraiment. Les journées commençaient très tôt et finissaient assez tard.
Et là, les jumeaux, parce que ça fait deux enfants qui arrivent en même temps.
Oui.
Hein, pas besoin d'expliquer c'est quoi des jumeaux. Je
exactement,
pense que les gens
fait que c'est, le savent. C'est double hein? Travail, tu sais, on dit des fois quand il y en a pour un, il y en a pour deux, mais il faut prendre le temps, là. Par contre, là-dessus, Gérard m'a beaucoup aidé. On faisait les repas ensemble. T'sais, lui en prenait un, moi je prenais l'autre. Les bains, ben c'était à tour de rôle. T'sais, un soir, c'était moi, le lendemain, c'était lui qui les donnait. Ça fait comme ça, ben ça a permis de... Que ben, ça se passe bien.
Puis que c'est ça, pas tout le même qui faisait tout.
C'est pis... ça, pas toujours le même qui fait tout. Puis non, là-dessus, il a été un super bon papa.
Puis là, je veux juste poser une seule petite question de rien du tout.
D'accord.
Concernant Mélissa, parce que éventuellement, je voudrais la recevoir au micro aussi. Je suis en négociation avec elle. Mais... comment c'est avoir comme Mélissa comme enfant, comme quand elle était petite? C'était
Mélissa était facile.
OK.
Première de classe, jeune, là, toute son primaire, là, c'est une petite première de classe. Studieuse, souriante, très souriante, joyeuse, une enfant facile. Ouais. L'adolescence, ben comme tous les adolescents.
Ah, là, crise d'adolescence petits, oblige, hein, j'imagine.
Ça, exactement, mais rien de dramatique. C'est normal, là. Les ados normaux, tu sais, qu'à un moment donné, là, ils se révoltent un peu contre l'autorité parentale, mais rien de dramatique, tu sais, pas de dire je fugue ou je
quitte la maison. Ouais, des crises là, qui finissent plus, là.
Non, c'est okay. Ça. Fait que, puis elle a rencontré son coco, elle avait 16 ans, puis elle est encore avec lui aujourd'hui.
C'est ça, c'est un amour d'adolescence, là, quasiment.
Vraiment, vraiment.
C'est pas tout le monde qui a la chance de...
Non, puis c'est sûr que, tu sais, comme moi, je la voyais faire à 16 ans, genre, oh, mon Dieu, c'est jeune, là. Puis finalement, regarde, elle a fait son bout de chemin, puis aujourd'hui, j'ai 3 beaux petits-enfants.
En plus,
puis,
ben oui.
On le regrette pas.
Et là, France, après, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on sait que, bon, tu n'es plus en couple avec Gérard, mais comment ça s'est passé pour toi après? Je sais que tu as habité longtemps à Longueuil, puis à un moment donné, tu as choisi de te retirer, mais tu me disais que tu as été sur comme le comité du RTL.
Oui.
Tout ça.
Sur le comité...
pour l'admissibilité des...
au transport adapté du RTL. J'ai fait ça, je te dirais, 3-4 ans, certains.
OK.
Moi, comme je t'ai dit tantôt, j'ai perdu la vue à 50 ans. Quand c'est arrivé, je me suis séparée. J'ai déménagé, j'ai acheté mon condo.
OK, ça s'est fait à ce moment-là.
Tout en même temps.
OK.
C'est que c'est sûr que quand j'ai atterri dans mon condo, tu sais, une fois là, le déménagement fait, tout ça, là, je tombais de haut, là. Tu sais, là, je disais, mon Dieu, comment je vais faire? Ma vie est finie, c'est sûr, je ne vois plus rien. Je savais même pas comment c'était fait en dehors de chez nous, là.
Ça a été ça le pire moment, ça, tu dirais?
Oui. Mm-hmm. Moi, je suis arrivée là au mois de novembre. Tout mon mois de novembre, le mois de décembre, le mois de janvier, là, c'est, je me souviens même pas de m'être habillée. Je me levais en pleurant, je me couchais en pleurant, j'étais démolie, là, ça n'a pas de bon sens. Jusqu'un matin, là, je te dirais vers la fin, milieu janvier, un matin, je me suis levée et je me suis dit, bon, là, c'est assez. Je me suis levée, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé l'Institut. Là, j'ai dit, moi, je veux pas, je suis en train de faire de l'apitoiement, puis ça, c'est pas moi. Je veux avoir un chien guide, je veux avoir une mobilité préparatoire au chien guide, parce que ça, c'est comme spécial aussi. Je connaissais mon braille par cœur, j'étais capable de lire tout ça, mais j'avais pas appris tactile.
À lire avec les doigts.
On est paresseux, là. On veut, tu sais, c'est bien plus facile de regarder que de. Ça fait que j'ai été, c'est Lise Monette qui m'a appris mon braille tactile. Après ça, j'ai eu l'entraînement avec Carole Zabiello, mobilité en prévision d'aller me chercher un chien chez Mira. Puis là, les choses sont enchaînées, puis là, ça s'est placé.
Mais je veux parce que moi, technicien braille oblige, là, je veux savoir apprendre son braille tactile quand on l'a lu longtemps avec les yeux. Ça se fait, là.
Oui, c'est plus facile une fois quand on le sait dans notre tête. C'est plus facile, tu sais, quand je sais que le point 1, point 2, ça fait B. C'est de l'acharnement, là, tu sais, c'est au début tu dis, oh mon Dieu, c'est donc bien long, puis tu sais, faut vraiment s'acharner, là, faut persévérer.
OK.
Puis tranquillement, un mot, deux mots, une phrase, deux phrases, trois phrases, puis là, ben aujourd'hui, je lis couramment, je ne fais que ça, ben je fais pas que ça, là, mais...
Ben tu lis beaucoup.
Ah, effrayant, je lis sur mon stream, puis je lis en... J'ai toujours un livre en braille en marche, là...
Ça que tu combines les deux, l'audio oui. Puis le braille.
Ah oh oui, j'ai toujours 2-3 livres en marche. Je reprends le temps perdu. Puis pourtant, quand je faisais de la transcription, je faisais lire.
On lit que ça, hein, des livres.
Oui, mais on, tu sais, on.
C'est pas la même, non, c'est pas la même pas lecture,
le temps,
là.
Vraiment mais... de comprendre, c'est ça, c'est autre chose. On cherche des fautes, puis on.
Sauf qu'au final, hein, on se ramasse à avoir lu un paquet de choses qu'on n'aurait jamais lu autrement. T'sais.
Exactement.
Puis jamais fait non plus, tu sais, parce que moi, la journée que j'ai transcrit des états financiers en braille, j'en avais même jamais lu pour moi-même, là. Puis j'étais rendu à en transcrire en braille, là. Je pense qu'après ça...
Ben, tu vois, moi, à l'Institut, dans les dernières choses que j'ai faites, c'est un livre de chimie. Un gros, gros livre de chimie, 500 quelques pages. Aïe, j'ai adoré ça.
Ah oui?
J'ai adoré ça avec le tableau périodique et tout, là. C'est un défi, mais tu sais, avec le code des mutes, ben, ça va bien au fond.
Il y a des situations, c'est ça, il y a une façon de faire toutes les choses.
C'est ça, puis quand il y a de l'adaptation, bon, on se réfère aux notes du transcripteur au début, tu sais, on avertit, puis tout ça, là. Mais en général, j'ai adoré ça.
Puis là, à la fin, quand ton livre est complètement fait, puis là, tu dis, je l'ai fini, c'est
content.
Un livre de chimie, tu sais, ah, c'est oui, pas l'affaire la plus simple quand même.
Exactement, à faire. J'étais fière comme un pan.
Ça devait être quelque chose.
Oui.
Et là, ce qui a été quelque chose aussi, c'est que, bon, le matin où tu t'es dit, bon, OK, ça, c'est assez, on s'apitoie plus, on sort, on recommence la vie. Hein, mm-hmm. Et là, ça aussi, c'est possible. Là. C'est que là, il oui. y a eu l'arrivée du chien, oui. L'implication, des implications dans les comités, oui. dans les choses, tout ça. Et ça... À un moment donné, là, je saute peut-être des étapes. Si jamais c'est moi qui saute des étapes, tu me ramènes. Mais à un moment donné, je pense que c'était le désir de te rapprocher de tes petits-enfants qui a fait que t'as quitté
Longueuil. Pour Waterloo?
Ouais.
Tu vois, là, ça fait 4 ans. Il y a 4 ans, c'est Mélie qui me dit, écoute-moi, elle m'a dit, qu'est-ce qui te retient autant à Longueuil? Bon, je te dirais, il n'y a plus grand-chose parce qu'il y a Alex qui est venu vivre avec moi un bout de temps. Avant ça, il y a eu Mélie qui est venue vivre avec moi un petit bout de temps avant, tu sais, qu'elle aille rester avec son coco.
Et là, Alex, c'est ton garçon, ouais. C'est l'autre jumeau.
C'est ça. Lui, il est resté, je te dirais, c'est 4 ou 5 ans avec moi. Entre-temps aussi, entre les deux, j'ai une de mes amies qui prenait son cours d'infirmière à Montréal. Puis comme elle venait de Sherrington, ben elle m'a demandé pour rester chez nous. Mais une fois que tout ce beau monde-là ont été partis, tu sais, parce que c'était chacun le tour, là, il y a eu Mélie, ensuite mon amie Suzanne, puis après ça Alex, ben là, je trouvais que j'avais fait le tour. Il n'y avait plus grand-chose qui me retenait là, vraiment à Longueuil. C'est que Mélie, elle me dit, ça ne te tenterait pas de t'en venir dans mon coin, te rapprocher de tes petits-enfants, puis tu serais proche de moi, il me semble, on pourrait faire plein d'activités. Puis l'idée a fait son chemin, puis j'ai dit, ben oui, pourquoi pas? Pourquoi pas?
Et là, quand tu dis que l'idée a fait son chemin, ça a pris à peu près combien de temps?
Pas long.
Non?
Ça a pris, je te dirais, 6 mois, peut-être, 6-7 mois. Tu sais que je pesais le pour et le contre, puis au bout du compte, j'ai dit, ben pourquoi pas, c'est une bonne idée. Fait que j'ai trouvé mon appartement, puis depuis ce temps-là, je ne l'ai jamais regretté. Je ne reviendrai même pas vivre. Moi, j'ai vécu la grosse partie de ma vie en ville, Montréal, Longueuil, mais je ne reviendrai plus pour tout l'heure du monde, là. C'est tellement calme. Surtout moi, là, je suis sur une petite rue, mais qui est tout près de tous les services, tous les magasins. Mais je suis en retrait, ça fait qu'il n'y a pas de bruit. Les petits oiseaux le matin, il n'y a pas de trafic d'auto. Il y en a, mais une au toit à l'heure, une auto à l'heure.
Donc, le meilleur des deux mondes.
Puis depuis que je suis là, je vais tous les jours chez Mélie, en transport adapté, puis je fais j'aide mes petites filles à faire leurs devoirs, leurs leçons.
Wow!
Puis là, j'ai dit bonhomme, là, cette année, il est à maternelle. Je touche pas à ça, mais l'année prochaine, il commence sa première. Fait que là, je commence avec le petit bonhomme, puis la deuxième, là, qui va être en 4e année.
C'est l'aide aux devoirs avec oui. La grand-mère et les petits-enfants. Ouais. Oui. C'est beau.
Puis ce qui est vraiment, vraiment gratifiant, tu devrais voir les bulletins qui m'ont sorti ces enfants-là, là, des 80, des 90. La plus basse note de ma petite Zoé là, qui est au milieu, c'est un 75, ça fait que garde.
C'est pas inquiétant.
Non, pas du tout. Fait que grand-maman est très fière, puis ça va bien. Puis moi, ben ça m'occupe, ça me tient jeune aussi, hein, des petits-enfants. Ils veulent pas, ils nous apprennent plein de choses. Ah oui? Ah, c'est comme ça maintenant, OK. Et puis, j'adore ça.
Donc, si je me trompe pas, France, l'année 2015, ça a été une année charnière pour toi, je dirais.
Oui, c'est l'année où je suis déménagée à Waterloo.
Mm-hmm.
Et j'avais été le mois d'octobre 2014, juste avant mon déménagement, j'avais été chercher mon deuxième chien guide,
okay.
Gazou. Et j'avais des... Hélène Guérette était mon intervenante pour la mobilité avec Gazou. Puis c'est elle qui m'a introduit à Granby, à l'organisme L'Œil. Elle m'a présenté, elle connaissait Pierre Champagne et l'organisme. Donc, elle m'a présenté à Pierre, qui m'a tout expliqué le fonctionnement de l'organisme et qui m'a demandé si j'étais intéressée d'être... de participer au conseil d'administration.
Oh, oh, oh! Ça fait que là, l'intégration dans un organisme et pas juste comme membre participante, là, aussi sur un conseil d'administration.
C'est ça. C'est au début, juste comme membre, mais ça a pris, je sais pas, une couple de mois. On a
assez
commencé
rapidement
à se parler. Puis il me dit, écoute, on aimerait ça t'avoir sur le conseil d'administration. Ça te tente-tu? Fait que j'ai décidé d'embarquer.
Juste avant, L'Œil, c'est pour les personnes handicapées visuelles?
Oui, L'Œil, c'est comme O-E-I-L, c'est Organisme d'éducation, intégration, loisirs.
OK, ça inclut tout ça, là.
C'est ça, c'est okay. Comme les personnes qui viennent d'arriver, admettons, dans notre secteur, là, pour de Granby, puis qui savent pas trop où il y a des loisirs, où se diriger, ben on peut les renseigner là-dessus.
OK.
Nous, comme loisirs, on a différents loisirs. On a des joutes de crib à toutes les semaines. Il y a des cours à la piscine Miners, de l'aquaforme.
OK.
On a eu déjà des cours de pilates. On a des rencontres, des mercredis rencontres où ce que les personnes, les membres peuvent se rencontrer pour échanger, prendre un café,
échanger puis socialiser.
On a d'autres temps aussi où on a une personne qui s'appelle Noëlla Bergeron qui, elle, nous fait des quiz.
Ah, OK.
C'est très intéressant parce que, en tout cas, pour ceux qui aiment ça, c'est sûr, là, c'est vraiment le fun. Une fois par année, on organise un voyage. Il y a 3 ans, on avait été à Rimouski, Pointe-au-Père, tout ça. L'année d'après, on est allé Charlevoix, c'était l'année passée. L'année d'avant, il y a eu Rimouski, après ça, la route des vins.
Oh, wow!
L'année passée, on est allé à Charlevoix. Cette année, on fait Montréal.
Pourquoi pas?
Ben oui, parce que on dit, ah oui, c'est proche, puis tout ça, mais est-ce que tout le monde connaît les musées, l'histoire de Montréal, le côté historique, comme on va aller au pied du courant, voir la prison là, où il était Riel, tout ça. Là. On fait...
les principaux...
C'est ça, là, tu sais, comme on va aller dans le Vieux-Port le samedi, on va monter dans Grande-Roue, on prend le traversier, on fait la petite croisière sur le Saint-Laurent l'après-midi. Le soir, on va coucher à l'hôtel proche du métro Holiday Inn. Puis le dimanche, ben là, c'est circuit guide touristique avec un autobus nolisé avec
un guide
okay. Qui nous explique différentes choses. Fait que cette année, c'est ça.
Fait que vous partez un beau petit groupe là,
ouais,
qui est intéressé.
Oui, habituellement, on est 35 et 40 personnes.
OK.
Puis, on a tous un accompagnateur.
OK.
Et puis là, bon, on y va par là. Puis aussi, une fois par année, on a une pièce de théâtre. Il y a 3 ans, on est allé le théâtre de la Marjolaine à Eastman.
Oui.
Les 2 dernières années, ben ça s'est passé l'ancien presbytère.
OK.
Puis c'est des soupers théâtre. T'sais, on a le souper, puis tout ça à des prix vraiment, vraiment réduits. Là. Les membres ne paient pas le montant. Tu vois, comme le souper théâtre cette année, là, si chacun avait payé le prix, c'était 75 $ le souper et la pièce.
Okay.
Mais en réalité, chacun a payé 25 $.
Oh là là, OK. Donc, c'est plus que raisonnable. Là.
C'est ça. Puis avec ça, pour ça, ben c'est pour ça qu'on fait des levées de fonds. On vend du chocolat à l'automne. On a notre souper dans le noir à tous les ans au mois de février. Fait que ça, c'est tous des dons qu'on recueille pour ça.
Pour essayer de diminuer
offrir,
le coût des
Ouais, des pour offrir activités. Des voyages à nos membres puis des toutes sortes de choses.
Dans là, le fond, c'est que l'organisme paye une partie puis ouais. Le membre paye
une petite partie.
Une plus petite partie, dans
c'est
le fond.
C'est ça.
OK. Et là, on t'approche pour embarquer sur le conseil d'administration.
Oui.
Bon, moi, j'en ai fait plusieurs, conseils d'administration. Pour l'œil, qu'est-ce que ça impliquait comme...
C'est décider différentes choses. Premièrement, si on, tu sais, quand il y a un nouveau membre, ben c'est tout le CA qui doit décider s'il est admissible ou pas.
OK.
Les voyages ou les activités, bon, qu'est-ce qui est le mieux, tel endroit plus qu'un autre, ou, tu sais, des suggestions... question de budget aussi, là, voir à ce que l'argent soit bien réparti, si on veut.
Ça faut voir à toute l'organisation.
C'est ça.
Mais là aussi le roulement
de l'organisme. C'est ça.
OK. Et là, tu me disais, la première année, tu as été administratrice.
Oui.
La deuxième année, tu as été vice-présidente.
Oui.
Et là, maintenant, tu es président.
Oui, cette année, à notre AGA, au mois de juin, on m'a élu président.
Et là, c'est quelque chose quand même.
Oui,
ça.
Là, c'est tout nouveau encore. J'ai pas. Puis il y a eu les vacances d'été, ça fait que je suis pas vraiment encore entrée dans mes fonctions.
Ouais, c'est un peu plus tranquille l'été.
C'est ça,
puis
c'est
bon,
fait que
OK.
J'ai pas encore interagi à ce niveau-là.
Est-ce qu'il faut parler devant les... Est-ce que quand il y a des activités, la présidente parle, va annoncer?
Donner son mot, mais par contre, Pierre Champagne, qui est notre directeur, fait très bien les choses.
Okay.
C'est quelqu'un qui se présente bien, qui s'exprime très bien. Ce que normalement, lui va dire la plus grande partie des choses... Puis moi, le président, ou avant c'était Jean Royer, là, maintenant c'est moi, ben nous on ajoute notre petit mot, mais sans plus. Là,
c'est comme le directeur qui introduit, puis vous
c'est
autres,
ça.
Le président qui
c'est
va...
C'est ça, parce que Pierre était président avant,
il a été,
pendant
oui,
10 ans.
Longtemps quand même.
Ça fait que tu sais, lui, il connaît tout le monde, il connaît, tu sais, il sait vraiment là, sur le bout des doigts là, comment ça fonctionne. Fait qu'on s'en remet, moi, dans le moment, je m'en remets à lui beaucoup, là, mais sous sa férule, je vais apprendre.
C'est ça, et après, tu vas mettre tes couleurs aussi,
c'est ça.
J'imagine. Puis,
exactement.
Voilà, ça fait que...
J'en suis encore tout étonné quand on a eu une réunion il n'y a pas longtemps, puis en rentrant, tout le monde applaudit. « Bonjour, madame la directrice! » Je suis encore toute surprise de ce qui, moi...
c'est de la nouveauté. C'est,
oui, oui.
C'est sûr, hein? Mais l'œil, en tout cas, de ce que j'en ai entendu, ça a l'air dynamique, ça a l'air varié comme activité, ça a l'air très intéressant. Je suis quasiment jaloux de pas être dans cette région-là, bien que on en a, nous aussi, des organismes dans notre région. Mais quand même, c'est les gens qui seraient intéressés à en savoir plus, peut-être à devenir membre ou je sais pas, y a-tu moyen de faire des suggestions d'activités? Est-ce que quelqu'un qui serait intéressé d'être en contact avec l'œil, qu'est-ce que tu leur conseillerais?
Moi, je leur recommanderais d'appeler Pierre Champagne.
OK.
Au numéro de l'œil à nos bureaux, qui est le 450-991-0777.
D'accord. Donc,
puis lui pourra vraiment donner toute l'information.
Répondre aux questions.
Exactement. Puis c'est quelqu'un qui est dans notre région. qui pourraient devenir membres aussi. C'est sûr qu'on peut pas prendre de gens
à l'extérieur.
C'est ça, c'est comme quelqu'un de Longueuil pourrait pas.
C'est ça.
Mais aussitôt que c'est dans notre secteur, il y a pas de problème. Puis on recrute de tous les âges. Notre plus vieille membre a 103 ans.
Oh là là!
Mais en forme, tu dis, toi? Elle fait la barbe à beaucoup de jeunes, là. Elle va à toutes les activités, elle va au voyage. Elle est vraiment en pleine forme. Puis notre plus jeune membre dans la trentaine, je crois, là, 30 ou 35.
OK.
Fait que c'est variable.
C'est variable, mais oui. C'est ouvert à tous.
C'est ça, c'est ouvert à tous, même si... il y aurait en bas de 30 ans, 20 ans, ils sont bienvenus.
Ils peuvent y trouver leur compte.
Exactement, dans nos diverses activités. Puis aussi, simplement aussi, des fois, pour avoir des renseignements. Tu sais, quelqu'un se demande, dit où je pourrais m'adresser, vu que je vois pas pour telle ou telle chose. Ben on a souvent les réponses à ça.
Et est-ce que vous cherchez des bénévoles aussi? Est-ce qu'il y a des gens
qui... Ça, c'est sûr, c'est toujours apprécié, les bénévoles. Cette année, justement, il y a une quinzaine de jours, on a remis une plaque honorifique à notre bénévole de l'année. On a toujours un bénévole de l'année. Comme tu vois, je parlais du souper dans le noir, qui revient à chaque année, ben ça prend des bénévoles.
C'est ça, pour à peu près toutes les activités, ça prend des bénévoles. Oui. Puis c'est comme tu le dis, ça peut être ça, pour servir aux tables, pour aider à amener aux salles de bain, des trucs comme ça.
Ou accompagnateur, oui. Ou tu sais, il y a plein de façons où, pour nous, les bénévoles, c'est grandement apprécié.
Et on en a rarement trop.
Jamais trop.
Jamais trop. France, je savais que j'allais apprendre plein de choses. J'ai des comme des morceaux de casse-tête, je pense, qui se sont replacés dans ma tête avec toi, Gérard. J'ai une idée de Mélissa comme quand elle était jeune, puis tout ça. Ça fait que ça a été très très instructif pour moi et pour plusieurs qui ont écouté l'entrevue, j'en suis sûr. Et ça a été en plus très agréable. Et ça, je te remercie encore de t'être déplacé à Longueuil, d'être venu ici chez Point par Point aujourd'hui.
Ben écoute, Martin, le plaisir a été pour moi. Puis je te retourne le compliment, ça a été très agréable et je te remercie beaucoup.
Ben merci à toi, merci à tous de nous écouter et bonne chance avec dans tous tes projets, que ce soit à l'œil, que ce soit avec tes petites filles, puis avec ton petit-fils que tu vas commencer à coacher dans les devoirs l'année prochaine.
Exact.
Merci beaucoup.
Merci, Martin.
Vous venez d'écouter « Connaissez-vous » avec Martin Chouinard. Présentateur, Stéphane Pilon en collaboration avec Papillon Sonic. Voix du générique, Joel Pucci. Notre site web est toujours disponible au www.martinchouinard.com. Notre adresse courriel est connaissez-vous2017@gmail.com sans tiret. Nous attendons vos commentaires et suggestions. Un immense merci à la compagnie Point par Point Incorporée, l'Association des aveugles de la Rive-Sud, AARS, ainsi qu'au Regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain, RAAMM, de nous prêter gracieusement leurs locaux pour l'enregistrement de certaines de nos émissions.
À notre prochaine émission, une personne qui a quitté son pays natal pour venir vivre au Canada, Boniface Nieu-Longfoon, à notre rendez-vous du 22 novembre.